Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et cette émission n'est pas une analyse de qui veut être mon associé, pas encore. En définitive, j'ai fait le choix de faire une dernière, somme toute, émission avant de basculer sur les qui veut être mon associé parce que je suis tombé sur le scandale des arbres. Je t'en dis pas plus. Je trouve que quand même, ça me dérange cette affaire. Donc j'ai envie de t'en parler. Pour t'expliquer la situation, j'ai entre les mains deux reportages. Vraisemblablement, je vais m'en servir que d'un seul, mais il est possible que je te mette les deux. Je t'invite vraiment à faire des recherches là-dessus. C'est un peu scandaleux. Tu vas voir que c'est lié à l'immobilier, de façon tout à fait amusante d'ailleurs. Et je vais te parler de sujets immobiliers dans cette émission, même si au départ, tu peux te dire que ça n'a rien à voir. Enfin, je voudrais juste te rappeler que je travaille toujours sur le gros podcast, que dès qu'il sera prêt, je te préparerai, je te dirai tel jour, telle heure, bam, gros podcast. Et puis en attendant, je te rappelle l'usage, en prenant le téléphone d'un ami, en l'abonnant sauvagement à l'émission ou alors en me laissant des étoiles et un commentaire là où tu écoutes ce podcast. Sinon, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, dans l'onglet formation, il y a mes deux formations et je t'invite à y aller, tu as 300€ d'offert sur les deux d'ailleurs, sur l'une des deux, sur celle que tu veux. Ou alors, tu vas dans l'onglet livres, tu cliques et tu reçois mes livres dans la boîte aux lettres. Ou alors, tu vas dans l'onglet coaching, tu cliques et on travaille, toi et moi, sur ton projet. Et j'insiste sur le fait que c'est moi que tu vas avoir au téléphone et pas je ne sais qui d'autre, c'est moi qui m'occupe de ça. Voilà. Donc, sans plus de transition, Patrick Magnéto.
Je m'appelle Mathias Bonneau, j'ai 32 ans, je suis bûcheron, écrivain et ce que j'aime par-dessus tout, c'est être en forêt.
Donc c'est pas une légende, les bûcherons mettent vraiment des chemises à carreaux.
je l'ai mise parce que t'es venu. Non, en vrai, de manière thermique, c'est très intéressant parce que tu peux remonter les manches, tu peux déboutonner, tu peux gérer ta température très facilement.
Allez, on voit bien l'éclaircie, quoi.
Celui qui va en profiter le plus directement, c'est celui-là.
C'est ça la technique, couper un arbre pour laisser de la place et de la lumière à un autre qui va pouvoir s'épanouir.
Il y a deux manières de voir le capital qu'on a là, c'est que soit c'est un tas de fric, soit c'est un écosystème.
Mathias connaît sa forêt. Il choisit ses arbres et les marque d'un coup de peinture.
Tu vois, il y a des arbres qui ont des points rouges, il y en a un là, tu vois.
Ouais.
Les points bleus, faut pas toucher. Du coup, on va de point rouge en point rouge et on coupe ça.
Pourquoi t'as choisi celui-là, là ?
Par terre, il y a ces semis qui sont là.
C'est-à-dire
c'est des semis, sauf que c'est des arbres qui issus de graines. Nous, moi, j'ai rien fait là-dessus.
Ça, c'est pas toi qui l'as planté.
Non, c'est des arbres gratuits, ça. Et donc, eux, régulièrement, il faut leur apporter de la lumière. Ce qui est magique avec la gestion comme ça, c'est qu'en même temps, tu récoltes du bois, en même temps, tu es en train de régénérer ta forêt.
Il y a un lien émotionnel, en fait, entre toi et tes arbres, quelque part.
Ben, ouais, carrément.
Ça t'aurait rapporté plus, financièrement, de tout raser ?
Il faut même pas faire le calcul, quoi, parce que sûrement que oui, quoi.
Donc, t'es un bûcheron qui déglingue pas la forêt. On peut te définir comme ça.
Allez.
Le terrain lui appartient. Il l'a hérité de son grand-père.
Ah, on est face à de la propriété forestière. Alors, si tu ne le sais pas, les propriétés forestières te permettent de bénéficier de mécanismes fiscaux, des avantages fiscaux en France. Mais vraisemblablement, je réouvrirai cette parenthèse durant l'émission, je pense. Je vais me concentrer sur deux choses. La première, ça peut être soit un tas de fric, soit un écosystème. La deuxième, la gestion. Alors, ça paraît fou. Peut-être que au départ, tu es en train de te dire « Mais pourquoi j'écoute cette émission ? Elle ne m'intéresse pas. » Et pourtant, si. On va commencer par la gestion. En fait, là, tu viens de voir quelqu'un qui gère une forêt. Et il gère une forêt comme tu dois gérer tes finances. Ce qui est intéressant, c'est que quand il fait sortir un tronc, il le fait sortir à l'avantage d'un autre arbre ou d'une nouvelle pousse. Et finalement, ça n'est ni plus ni moins que ce que tu dois faire pour tes finances. Si tu fais sortir des euros, c'est soit à l'avantage des nouveaux euros qui rentrent dans ton porte-monnaie, soit pour bénéficier sur du plus long terme de nouveaux euros qui arriveront par de l'investissement. Si tu arrives à raisonner comme ça, la forêt de tes finances se portera bien. Je pense que tu as compris l'image. Elle est drôle, enfin, un petit peu. Et l'autre élément qui n'est autre que le premier, soit un tas de fric, soit un écosystème. Là encore, le parallèle, je le trouve magnifique avec finalement notre vie, notre manière de gérer nos vies. Parce que là aussi, tout est business, le business est tout. Et c'est un choix que de voir les choses sous cet angle ou pas. Et en définitive, tu peux créer autour de toi un écosystème qui va te permettre bien de faire en sorte que tes finances vont se porter de mieux en mieux. Ou comme la plupart des gens font, tu décides d'ignorer cet aspect de ta vie, l'argent, les finances, et dans ces cas-là, ne t'étonne pas si ça se passe mal. En fait, ce qui est intéressant, en tout cas moi, c'est ce que j'ai ressenti en décidant de faire cette émission, c'est que tant que tu ne t'intéresses pas à une chose, tu ne lui donnes pas de l'importance, et tant que cette chose n'a pas d'importance, tu ne vois pas ce que tu peux faire avec. Avant que je fasse une émission sur le bois et le scandale des arbres, je n'avais aucune notion de ce qui était en train de se passer sur le territoire français au niveau des forêts. Je viens de le découvrir, on m'en a parlé ce week-end, et j'ai décidé de t'en faire une émission. Et de la même manière, tant que tu ne te lances pas dans l'amélioration de tes finances, tu n'as pas conscience de ce que tu peux faire avec ton argent. Donc ça veut dire que prends le temps de donner de l'intérêt à des choses qui ne t'intéressent pas. Et c'est valable pour tout un tas de domaines de la vie. Je te dis ça parce que je pense que tout le monde est capable d'améliorer ses finances. Et je pense que dès l'instant que tu te donnes l'occasion de les améliorer, il va forcément se passer des choses. L'action amène toujours des résultats, bons ou mauvais. Et ces résultats, si tu les retravailles inlassablement, ils finissent toujours par porter leurs fruits. Et je répète toujours les mêmes choses. Sans plus de transition, la suite.
Là, c'est la parcelle de chêne.
Ouais, c'est le petit coin de paradis. Le bois de chêne, par exemple, c'est un bois génial, génial.
Mais qui met trop de temps à pousser.
Trop, qui met beaucoup de temps à pousser.
Trop de temps aux yeux de l'industrie.
Trop de temps aux yeux des industriels, ouais.
Le chêne, il lui faut un siècle pour arriver tout là-haut. Trop long. Pas assez rentable pour le marché du bois.
La notion de rentabilité et de temps sont intimement liées. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on colle ces notions sur quelque chose d'aussi important qu'une forêt qui devrait être exempt de ce type de considération. Mais passons, je pense que tu comprends maintenant le but de mon émission. D'un côté, on a les normes écologiques qu'on nous impose à nous, investisseurs immobiliers humains, en France, hein, bien sûr, parce que c'est valable en Europe, mais pas dans tous les pays du monde. On nous impose ces normes parce qu'on pollue, tu comprends, et que c'est très grave. Et de l'autre côté, on nous dit il faut planter des arbres parce que les arbres, ça produit de l'oxygène, ça pourrait nous sauver. Et quand tu mets ton nez dans la gestion des bois et forêts en France, tu te rends compte que là aussi, c'est catastrophique. C'est le barouf, comme tu vas le voir. Et tout ça, je trouve que, indépendamment du fait que ce soit ironique, c'est assez grave parce que ça pourrait être réglé beaucoup plus simplement. Et en fait, c'est juste une question de volonté. Mais encore une fois, il y a peu de gens qui ont de la volonté. Et je m'adresse à toi aussi parce que même toi, des fois, tu fais preuve de bien peu de volonté lorsqu'il s'agit de t'imposer des sacrifices pour atteindre les résultats que tu convoites. Et là, on a quelqu'un qui a la chance d'avoir hérité certes d'un bois de son grand-père, mais qui, au lieu de coller de la rentabilité dessus, a à cœur de voir s'épanouir, d'entretenir ce bois pour le faire survivre et pour le protéger de tout ce système capitaliste. Alors, je suis un capitaliste. Je pense que gagner de l'argent, ça sert à ça. Je pense que quand tu as de l'argent, il y a aussi une notion et une dimension qui consiste à dire qu'est-ce qu'avec mon argent, je vais essayer de protéger. Et je pense que la situation des bois et forêts en France est une ineptie totale parce que d'un côté, bon, je te l'ai déjà dit, mais je vais avoir tendance à te le répéter toute cette émission, c'est une niche fiscale. Et de l'autre côté, c'est un enjeu politique maintenant puisqu'il faut planter des arbres. Et comme tout ce dans quoi les politiques mettent leur nez, ça devient une cacophonie monstrueuse. Et cette émission, elle a pour vocation et de te montrer une partie du scandale et aussi de te faire prendre conscience que tu dois devenir riche en fait. J'ai pas quitté, je m'en fous en fait. Démerde-toi de devenir riche pour commencer à t'engager sur des domaines comme celui-ci. On a tous des domaines qui nous tiennent à cœur. La question c'est qu'est-ce qu'on fait pour que ça change ? Parce que c'est bien d'en parler, mais ça fait que en parler. Et en parler, ça change rien. Donc qu'est-ce que tu fais concrètement pour que ce qui te tient à cœur évolue dans la direction dans laquelle tu veux ? Moi, ce qui me tient à cœur, c'est que les gens gèrent mieux leur argent. Que comme ce bûcheron qui gère bien sa forêt, toi, tu gères bien tes comptes en banque. Pour que si tu as plus d'argent, tu puisses aider par tes choix financiers, par tes dépenses financières, les causes qui te tiennent à cœur. Parce que chaque consommateur, lorsqu'il donne de l'argent par exemple à McDonald's, qu'est-ce qu'il fait ? Il permet à McDonald's d'ouvrir un nouveau McDonald's. Mais si tu donnes plus d'argent à McDo, il y aura moins de McDo. Donc la question que je te pose, elle est simple. C'est qu'est-ce que tu fais pour mieux gérer tes finances, pour avoir de l'argent, pour financer les causes qui te tiennent à cœur ? Là, le marché du bois, comme tu vas le voir, c'est un scandale. C'est un marché qui nous touche directement à tous les niveaux, aussi par rapport aux matériaux dont on a besoin pour rénover nos appartements. Et tu vas voir que malheureusement, on subit les mauvais choix qui sont faits sur ce marché.
Mais alors, que deviennent nos belles forêts naturelles ? De chênes ou de hêtres ? Eh bien, voilà à quoi en sont réduits certains exploitants. L'un d'entre eux, en Normandie, va nous l'expliquer. la mort dans l'âme.
On est forcé de les exporter. Donc on envoie ces bois-là en Asie. Cette semaine, je vais charger, je crois que c'est 60 containers. 60 containers de hêtres.
C'est un monde absurde. Cette forêt française va traverser la planète. L'exploitant n'a pas trouvé d'acheteur dans la région.
Les hêtres ont très peu de débouchés sur le territoire national. Ça, ce sont des chênes rouges d'Amérique. D'une essence noble, hein, qui est, en France, n'est pas du tout transformée, ou très peu.
Comment ça, pas de débouchés? Comment ça, très peu transformé en France? Nous n'avons pas eu besoin d'aller bien loin pour trouver quelqu'un que ça intéresse. C'est le cas de ce charpentier. D'ailleurs, ce matin...
Ça va être bon, là.
Il se fait livrer.
Alors là, on a du chêne et du hêtre. C'est du bois qui vient principalement de Roumanie.
On sait de quelle forêt ?
Sincèrement, je ne sais pas du tout d'où ça vient.
C'est un marché sans traçabilité. Quand il nous dit que son bois vient de Roumanie, il n'en est même pas tout à fait sûr. Ce qui est certain, c'est qu'il ne vient pas de France. Il n'a trouvé aucun fournisseur près de chez lui. Nous allons vous raconter l'histoire de l'exploitant qui rêve de vendre en France mais est obligé d'exporter, et du charpentier qui adorerait acheter en France, mais se retrouve contraint d'importer.
Ça nous gêne, sincèrement, ça nous gêne. On a des choses chez nous qui partent à l'étranger et nous, on importe des choses de l'étranger.
On marche sur la tête. Comment en est-on arrivé là?
L'industrie française n'a pas les capacités de transformer tout ce que la forêt française produit. Donc il va partir en Asie pour être transformé en meubles.
Les hêtres, les chênes, vont rejoindre le port du Havre, embarquer sur des porte-containers, et ils arriveront à destination 2 mois après la coupe.
C'est complètement aberrant.
Les exportations de chênes explosent. Elles ont été multipliées par 10 en 10 ans. L'exploitant forestier a fini par comprendre d'où vient cette absurdité. C'est que l'industrie s'est spécialisée dans ce qu'il y a de plus rentable, le pain. Les scieries se sont agrandies. Elles sont devenues démesurées. Et de plus en plus souvent, ces machines n'acceptent plus que du pain. Tant pis pour les autres arbres.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a très peu de scieries de hêtres. L'État aide les grosses unités de transformation et délaisse malheureusement les petites unités. Ça, c'est très dommage. Et moi, je me bats pour absolument sauver les petites scieries qui sont en zone rurale.
Pour bien comprendre, lançons-nous dans un petit rappel, niveau CE1. La différence entre le feuillu et le résineux. Le feuillu, comme son nom l'indique, a des feuilles qui tombent à l'automne. Le résineux, lui, possède des épines qui reste verte toute l'année. Le résineux a cet avantage de pousser 2 fois plus vite que le feuillu. Et il est très facile à transformer. Ce sont des troncs bien droits, toujours le même diamètre. Il y a très peu de nœuds. Bref, l'industrie en raffole. Le seul problème, c'est que dans les forêts françaises, il y a principalement du feuillu. 2 tiers de feuillu, 1 tiers seulement de résineux. Alors la plupart des propriétaires se sont adaptés. Ils plantent du résineux, toujours du résineux, que du résineux, en rang, comme on planterait des salades. Ce ne sont plus des forêts, ce sont des champs d'arbres qu'on récolte tous les 40 ans. Et pour qu'il n'y ait aucune repousse entre 2 rangées, on les asperge parfois de glyphosate. Le pesticide reste autorisé dans les plantations récentes.
Toi aussi, en écoutant tout ça, tu sais pas trop quoi dire et t'es un peu sonné, tu te dis mais... Attends, mais j'étais pas au courant de tout ça, mais c'est quoi ce bordel? C'est incroyable, hein? Alors... Je pourrais me lancer maintenant dans une critique de la situation, c'est la faute des politiques, c'est la faute des impôts, c'est la faute de nanana, bon, tout ça, on sait tous le faire, il faut être plus intelligent que ça, même si c'est difficile, et même si quand t'écoutes tout ça, ça met un peu en colère, parce qu'en plus, t'as d'un côté un charpentier et de l'autre un producteur de bois qui voudraient se vendre mutuellement des produits, mais qui ne peuvent pas en fait, parce que toutes les critiques que je pourrais formuler, que tu pourrais formuler, qu'on est tous capables de faire. Qu'est-ce qui est intéressant en fait? Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on vient d'écouter, c'est qu'il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème dans lequel on s'est embourbé. Et en plus qu'on se soit embourbé dans ce problème, il y a d'un côté aucune volonté politique pour le résoudre. Et de l'autre côté, il ne semble pas y avoir de solution proposée. Mais qu'est-ce qui ça représente ce que je suis en train de te dire? Ça ne serait pas une opportunité entrepreneuriale exceptionnelle? On ne serait pas face à une situation où... une personne qui aurait une idée à proposer, qui puisse régler le problème des 2 parties, pourrait se prendre une énorme partie du gâteau au nez et à la barbe de tout le monde. Moi, je crois que ce genre de situation peut être vu de plein de façons différentes. Et je pense que le problème n'est pas du tout le capitalisme. Tu pourrais dire, parce que fondamentalement, c'est audible aussi, hein, ça serait un très bon argument de dire, mais regarde Nicolas, tu vois bien que le capitalisme a créé cette situation monstrueuse et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune solution pour s'en sortir et que l'argent a pourri même le cœur de la forêt. Mais en fait, C'est faux. En fait, c'est par l'argent que tu peux régler le problème. Si demain, il y avait une entreprise qui se montait en France, qui trouverait un moyen de proposer une scierie adaptée finalement à tout type de bois et qui solutionne d'un côté pour le producteur et de l'autre pour le charpentier le fait que tout soit fait en France. Mais le mec, il se gaverait. Alors bien sûr, c'est facile pour moi, je parle derrière un micro et je suis en train de t'expliquer une notion qui existerait s'il y avait une opportunité entrepreneuriale réelle. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'en gros, ce que je suis en train de dire là, à savoir proposer un service qui rapporterait beaucoup d'argent, ça existerait si l'opportunité était réelle. Quelqu'un l'aurait déjà fait. Eh bien, je ne suis pas certain. Je pense justement que souvent, les meilleures opportunités sont celles qu'on a juste sous les yeux et que personne ne veut saisir parce qu'au premier abord, ça paraît insurmontable. Et tu regarderas que toutes les plus grandes histoires, toutes les choses les plus folles arrivent et sont créées par des situations où on a tendance à se dire « Non mais c'est impossible qu'il y arrive. » Et là, on a un problème d'envergure qui ne me paraît pas si compliqué et si tu es attentif et que tu suis mon travail, qui à mon sens a déjà été résolu parce que François Pinault, de la famille Pinault, premier du nom, pour lequel j'ai fait un podcast que je t'invite à écouter, a quand même fait fortune justement dans le bois avec une scierie qu'il a récupérée à son père. Et je pense qu'il y a encore une nouvelle opportunité sur ce marché parce qu'entre-temps, comme on est en train de le constater là, c'est clairement parti n'importe comment. D'abord parce qu'il n'y a aucune volonté politique. Et comme je l'ai dit au début, je ne critiquerai pas cet aspect-là, mais c'est quand même une réalité. Mais de l'autre côté aussi, parce que la mondialisation a favorisé et a facilité le fait que l'on bascule sur le système que l'on est en train de voir ici, à savoir le bois qui part en Chine. Il part en Chine, il est transformé, il revient en France parce qu'on achète les meubles en France, mais ils sont fabriqués en Chine. Enfin bref, ça n'a ni queue ni tête, c'est absurde, mais c'est comme ça. Et je pense encore une fois, et je le répète, qu'il ne sert à rien de critiquer, mais bien plutôt de se dire comment je peux régler le problème. Alors, tu vas voir des militants, il y a la manière forte, on va dire, c'est de militer. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que le meilleur remède contre le capital, c'est le capital. Alors, crée ta boîte et vas-y, bouffe-moi ce marché parce que pour moi, il y a une vraie opportunité.
Là, on a vraiment l'impression d'être dans la zone de combat entre la vieille forêt naturelle et de l'autre côté, les plantations, les monocultures qui avancent petit à petit.
Ah, c'est exactement ça. Et comme sur une ligne de front, en fait, c'est le no man's land où c'est le chaos. T'as des tranchées, tu vois, les ornières, on peut dire que c'est des tranchées. Magnifique forêt, les Douglas qui avancent, ce rouleau compresseur qui avance en rang. Tala, 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 tala.
Le Douglas, c'est un arbre que nous sommes allés chercher en Amérique du Nord. En 30 ans, la production de Douglas en France a été multipliée par 6. Et pour planter à cet endroit, il a fallu détruire une belle forêt naturelle de feuillus. Nos vieilles forêts sont pourtant notre meilleure arme contre le réchauffement climatique. Ce sont elles qui absorbent le plus de CO2. Elles gardent le carbone dans le bois et dans le sol. Mais quand on remplace cet écosystème riche, foisonnant, par une plantation de pins bien ordonnée, où rien ne dépasse, cela stocke beaucoup moins de carbone. Selon une étude récente, 40 fois moins.
C'est un délire. C'est un délire parce que tu te rends compte qu'en fait, on est là à nous demander à nous encore de faire des efforts. On les répercute sur notre mode de vie au quotidien. Alors que de l'autre côté, pour les besoins, on va dire, débridés et sans contrôle mondiaux de demande en Douglas, là, on contrôle rien, on laisse faire tout le monde n'importe quoi. Donc, tout le monde pendant du Douglas en détruisant finalement les forêts naturelles qu'il y a en France et en laissant les gens faire ce qu'ils veulent pour des raisons financières. Et c'est fou parce que je n'ai pas l'occasion de parler de ces sujets déjà dans toutes les émissions que je peux produire. Mais moi, ce qui me tue le plus, c'est qu'on est quand même dans le pays où on crée des lois à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et là, sur la niche fiscale des bois et forêts, parce que c'est une niche fiscale, il faut le savoir, hein. Tu payes beaucoup d'impôts en France, tu achètes des bois et forêts, eh ben, tu vas réussir à réguler ta fiscalité. Eh bien, sur cette niche fiscale-là, on va fermer les yeux. Alors, certains vont dire et vont sauter sur l'occasion pour dire « Oui, mais c'est parce que c'est les riches, c'est du lobby, gna 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 gna. » Un petit peu facile et simpliste comme analyse. Je pense que, et c'est mon opinion personnelle, je pense que la France est une entreprise, que même si les États, pour diverses raisons, ne se gèrent absolument pas comme des sociétés, On a une balance d'import-export qui doit être respectée. On a une énorme surface de forêt en France qui n'est pas exploitable en l'état parce que malheureusement, nous n'avons pas des résineux. Mais je suis désolé de ce que je m'apprête à dire. Quelque part, c'est un peu bien fait, je trouve. Parce que à vouloir toujours la rentabilité sans chercher l'efficience sur ce qu'on savait faire. Parce qu'au lieu de dire ben, il faut qu'on augmente l'exportation de bois et du coup, on va laisser et fermer les yeux les propriétaires de bois et forêts, on va les laisser faire un peu ce qu'ils veulent pour pouvoir nous faire du Douglas, pour pouvoir produire, tu vois. Au lieu de partir comme ça, on aurait dû soutenir le nucléaire pour devenir la première nation mondiale du nucléaire, le franchiser, se déployer à l'international en mode à l'américaine. Mais bref, c'est comme ça que je l'aurais vu. Eh bien non, on a sacrifié sur l'autel de la finance toute notre industrie, on l'a laissé filer et aujourd'hui on se rattrape aux branches, sans mauvais jeu de mots par rapport à l'émission que je suis en train de faire, en essayant de compenser l'export de bois par du Douglas qui n'est absolument pas le bois qu'on est censé trouver sur nos sols. Je trouve que, voilà, encore une fois, bon, moi j'ai une vision très, très gestionnaire du monde en fait. Hein. Je pense que les choses, quand elles sont faites avec bon sens, et c'est valable pour tout, elles finissent toujours par fonctionner. Dans la mesure où tu n'agis pas à court terme et où tes actions sont toujours posées sur le long terme. Agis pour durer. Et si tu agis pour durer, tu finiras tôt ou tard par avoir raison. Alors, encore une fois, là, ce que je suis en train de dire est complètement faux. On n'agit pas pour avoir raison. Mais ce que je veux dire, c'est maladroit, mais je le laisse. Tu vois, je ne vais pas le couper au montage. Ce que j'essaye de te dire, c'est que les actions qui sont faites pour la qualité sont les actions qui sont faites et qui finiront par être reconnues. Qui sont faites pour durer, ce que j'allais dire, sont des actions qui sont faites pour durer. La qualité, c'est fait pour durer. Donc, toutes les actions qui sont faites pour la qualité sont des actions qui sont faites pour durer. Et les actions qui sont faites pour durer finissent par être reconnues. Crée ta boîte sur le long terme. Même si au début, tu ne gagnes pas beaucoup d'argent et que tu pourrais en gagner plus en prenant des raccourcis, entre guillemets, ne les prends pas. Parce que justement, ces raccourcis se font au détriment de la qualité. Et la qualité, c'est ce qui va te faire durer. Et ces actions-là, à long terme, elles seront toujours saluées par tes clients, par le public, par les personnes que tu cherches à atteindre. Je ne pense pas qu'il faille se soucier de la rentabilité, bien que ce soit important et qu'il faut vivre, je ne le remets pas en cause, mais tu dois toujours agir pour le bien de l'environnement, pour le bien de tes clients, pour le bien des personnes qui t'entourent, pour le bien de ta famille. Si tu agis comme ça, ça finira par payer tôt ou tard. Après, il faut tenir, mais quand... Et je vais le dire parce que c'est ce que je pense. Mais quand tu fais les choses bien parce que tu veux bien les faire, tu tiendras, tu trouveras un moyen en fait. Alors je sais que c'est dur, je sais que bon voilà, je vais pas rentrer dans tout ça, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'aujourd'hui on agit trop pour l'argent. C'est important l'argent. Je suis le premier à le dire, je suis le premier à le mettre en avant. Je pense qu'il faut s'en occuper, etc., etc. Mais je pense aussi que il faut quand même conserver un niveau de qualité élevé dans tout ce qu'on fait. Et c'est ce niveau-là qui va amener les vrais résultats. Et voilà, une partie de moi a un sourire en coin, c'est très déplacé, mais je suis obligé de te le dire parce que tout ça, finalement, c'est juste que payer une addition de mauvais comportements. Quand à un moment donné, on a ce type de résultat, c'est parce que à un certain niveau, il y a des personnes qui ont mal agi, qui n'ont pas eu le courage de prendre les décisions nécessaires, les décisions difficiles, nécessaires pour obtenir les bons résultats. Et tôt ou tard, tu finis par payer l'addition.
Pour protéger nos forêts naturelles, il reste une dernière solution. Les racheter. Nous allons rencontrer la première personne qui a eu cette idée. Elle a créé un groupement forestier et elle va nous offrir une leçon de vie.
Ah voilà, on arrive chez Lucien. Ah bah tu vas voir, Lucien, c'est un personnage. Bonjour Lucien.
Bonjour Sylvain.
Ça va?
Ouais, bonjour. Ça va bien et toi? Bonjour.
Enchanté. Enchanté. Je te présente Hugo.
Je m'appelle Lulu du Morvan, j'ai 79 ans et depuis plus de 30 ans, je me bats pour sauver les forêts du Morvan.
Il paraît que vous êtes un symbole de la lutte pour les forêts dans le Morvan.
C'est beaucoup dire, un symbole. Non, je suis simplement une militante parce que je suis très... Ouais. Moi, pour moi, la forêt, c'est une passion depuis toute gamine. Quoi. Et là, ici, par exemple, il y a énormément d'abeilles. Ce sont des abeilles noires qui sont en voie de disparition, là. Mmh. On a encore des coins magnifiques, donc c'est pour ça qu'il faut se battre pour préserver tout ça. Hein. Le jour où je serai plus passionnée, c'est que ça ira mal. Hein.
Cette ancienne comptable va nous présenter son trésor, la forêt qui appartient à son collectif. Elle a mobilisé 900 habitants qui se sont cotisés pour acheter des parcelles.
Si vous ne l'aviez pas racheté, cette forêt, on serait au milieu des Douglas, là, alors.
Oh ben, c'est probable. Comment on peut imaginer transformer des beautés pareilles en usine à bois? C'est terrible, quoi.
Cette forêt, il l'exploite. Il coupe quelques arbres de temps en temps, en veillant à ne pas trop bouleverser la nature.
Le gros chêne, là, cet arbre-là, il est magnifique. Wow. Et regardez ce tronc. Moi, je dis tout le temps, ce chêne-là, moi, je dis, tiens, je vais me faire mettre mes cendres au pied, parce qu'il est trop beau. C'est en fait le symbole de cette belle forêt, quoi.
Cette forêt, vous l'avez sauvée?
On l'a sauvée, alors c'est le bonheur. Vous, si vous venez ici avec vos enfants, vos petits-enfants plus tard et tout, ben vous pourrez expliquer l'histoire d'un combat avec des résultats quand même spectaculaires, parce que c'était pas facile, hein.
Il faut imaginer Lucienne dans les années 80. Il y avait déjà des coupes rases et beaucoup de sapins Douglas. Elle a compris ce qui était en train de se passer. Lucienne a vu arriver l'industrialisation de la forêt.
Quand il y avait des coupes rases, je prenais des photos. Je me suis fait plusieurs fois courser par des forestiers qui étaient en train d'exploiter.
Dans la forêt?
Ah ben oui.
Pour... Vous courez après?
Ah ben oui, parce qu'ils ne voulaient pas que je prenne des photos. Ah ben oui. Donc moi, j'ai eu des tas d'aventures comme ça. Hein. Moi, c'est la colère qui me tient. Parce que souvent, j'étais découragée. Hein. J'ai eu des moments difficiles et je me disais, oh, allez, faut arrêter, tu peux plus. Et hop, je passais sur une route départementale, tombais sur une coupe rase énorme. Alors là, scandalisée, j'ai dit, ah non, ne lâche pas, parce que c'est pas possible de laisser faire ça.
Je trouve ça fabuleux parce que, déjà, il faut l'imaginer dans les années 80. Je veux dire, c'était il y a très très longtemps. Et ensuite... Elle a trouvé la solution par le capitalisme en créant un groupement forestier, en rachetant les parcelles. Boum, fin du game. Ça te montre que, d'abord, tout est possible. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est l'utilisation de la colère. On est tous en colère pour diverses choses. Et tu as le droit d'être en colère. Et bon, voilà, je ne vais pas rentrer dans cette discussion. C'est ton droit. Très bien. Maintenant, comment tu utilises cette colère, cette rage? Tu peux rager dans ton coin, être un rageux comme sur Internet, laisser des méchants commentaires. Ou alors, tu peux... produire, faire des choses, être force de proposition et utiliser cette énergie pour apporter un résultat. Encore une fois, je te l'ai dit tout à l'heure, là, je suis en train de te présenter une opportunité entrepreneuriale sur fond de scandale écologique qui se passe en France, dont je suis certain que personne ne te parle. Indépendamment du fait qu'il y a une opportunité entrepreneuriale, comme tu peux le voir, il y a des militants qui font de leur colère, de leur rage, une force et qui s'en servent pour produire un résultat, à mon sens, hyper intéressant et qui amène à clairement se questionner sur ce qu'on fait pour les causes qui nous tiennent à cœur. Parce que ce n'est pas son argent qui lui a permis de racheter la forêt. C'est un groupement qu'elle a formé avec 900 personnes qu'elle est allée voir, à mon humble avis, au vu du profil de la dame, en one-to-one, donc c'est quand même beaucoup de boulot, et qui lui a permis de créer ce groupement forestier, aujourd'hui propriétaire d'une forêt, et dont elle peut se targuer, qu'elle a réussi à sauver tout un écosystème. Moi, personnellement, ça me laisse songeur, et ça me permet de te dire, et de t'immiscer cette juste notion que rien n'est impossible. Il y a toujours des solutions, et toujours la possibilité de prendre n'importe quelle situation et d'y apporter une réponse. Alors après, la réponse, elle vaudra ce qu'elle vaudra, mais il y a toujours une réponse à n'importe quelle situation. Ça ne tient toujours qu'à un seul et unique élément, c'est la force avec laquelle tu bouges ton putain de cul. Voilà, je suis un peu vulgaire, excuse-moi s'il y a des enfants dans la voiture, mais c'est la réalité. Les gens ne se bougent pas le cul. Ils restent là, leur cul vissé sur la chaise, à piailler, à critiquer, à avoir un avis sur tout, mais à ne jamais rien faire sur rien. Et du coup, il se passe quoi? Ben, il se passe rien. Oh, surprise! Oh là là, je m'y attendais vraiment pas. Quelle chute surprenante! Donc, moi, je te pousse toujours à passer à l'action. J'essaye toujours de te montrer qu'il y a différentes manières de penser. Là, on est vraiment face à une façon originale, encore une fois, de solutionner un problème. Il y a eu des mouvements comme ça, solidaires, dans l'immobilier qu'on pourrait ramener à cette situation. On pourrait faire un parallèle. J'ai eu écho d'un groupement de personnes qui ont racheté des rues entières dans une ville ou dans un village parce qu'ils voulaient conserver l'architecture et éviter à des promoteurs finalement de venir faire la razzia sur des nouveaux immeubles dégueulasses, parce que bon, là aussi, on pourrait avoir des discussions très longues sur le sujet. Et ils se sont regroupés, ils ont racheté ces immeubles, ils les ont rénovés, ils ont remis des logements sur le marché. Et en plus, il s'avère qu'à l'arrivée, ils ont été rentables. Donc tu vois, ce que j'essaye de te montrer au travers de cette émission qui peut paraître bizarre au départ, c'est que un, il y a des scandales en France dont on cache l'existence et qui recèlent de trésors. Parce que là, si tu arrives à solutionner ce problème, tu peux non seulement sauver la planète, mais en plus te faire un paquet de blé. Deuxièmement, il y a toujours des solutions. Ça me gave de voir trop de personnes qui viennent et qui me disent « Mais je peux pas, j'ai un problème !» Mec, t'as pas de problème. Tant que t'as tes deux bras et tes deux jambes, t'as juste pas de problème. T'as que les raisons que tu te trouves pour ne pas agir. Ça te regarde, mais viens pas voir des gens comme moi pour leur dire après « Mais je comprends pas !» Moi, je comprends très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et troisièmement, parce que je dois quand même te le dire, oui, les bois et forêts sont une niche fiscale. Mais c'est pas ça le problème, encore une fois. Le problème, c'est que, en fait, on a un pays qui est dans une situation complexe aujourd'hui. Et cette complexité, elle fait qu'il y a des personnes qui vont optimiser une fiscalité qui est trop lourde. Demain, si tu crées une niche fiscale différente de ce qu'est la niche fiscale des bois et forêts, mais plutôt par exemple une niche fiscale qui consisterait à dire « je t'exempte d'impôt sur le revenu si tu sauves la forêt et qu'en plus tu refais partir la biodiversité au sein de la forêt ». Ben, ça marcherait bien, tu vois. Je pense qu'on aurait plus de forêts parce que les gens riches mettraient leur argent dans les forêts en France, ils les aideraient à se déployer et ça fonctionnerait. Or, aujourd'hui, la niche fiscale des forêts, elle est double. Elle est fiscale et elle est d'exploitation. Je m'explique. En gros, tu achètes une forêt, tu vas avoir un avantage fiscal sur tout ce qui consiste à l'entretenir. C'est-à-dire que d'entretenir la forêt, ça va te permettre de défalquer de tes impôts cet entretien. Mais de l'autre côté, cet entretien de la forêt produit une exploitation de bois qui a un intérêt sur le marché. Et du coup, ben comme toutes les personnes qui détiennent des forêts, généralement sont des personnes qui les ont pour des avantages fiscaux. Et comme toutes ces personnes sont généralement des entrepreneurs qui cherchent à optimiser ce qu'ils ont, quand ils se rendent compte que la forêt, elle est encore plus rentable quand c'est du Douglas plutôt que des chênes et je ne sais quel autre arbre qui devrait pousser sur nos sols, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Parce que c'est un peu le défaut des gens comme nous. Et moi, je ne déroge pas à la règle. Le problème qu'on a, c'est qu'on va chercher toujours à optimiser ce qu'on a entre les mains. Et à partir de là, ben, on rentre dans le système du capital. On pourrait en parler pendant des heures. Pour moi, c'est un problème d'ordre politique et non un problème d'ordre capitalistique. À toi de me dire ce que tu en penses. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un domaine dans lequel il y a de l'argent à gagner, et pas qu'un peu, pour celui qui se relèvera les manches et qui sera prêt à s'attaquer au problème et à proposer une solution viable et rentable. Juste un petit mot, au début j'avais prévu de te passer encore un autre reportage mais que tu trouveras sur internet. En fait, l'idée de cette analyse, je l'ai eue pour le scandale du milliard d'arbres dont finalement j'ai choisi de ne pas parler mais que je vais évoquer à la fin de cette émission parce que je veux absolument que tu sois au courant de ce qui se passe parce que je trouve que c'est important. Je sais pas si tu sais mais notre roi Jean-François Macron a décidé de planter 1 milliard d'arbres en France. Et en fait, la situation est scandaleuse puisqu'il s'avère qu'il rase des parcelles de forêt et il replante des arbres sur les parcelles qu'il a rasées. Donc, il détruit pour refaire. L'ironie, c'est que les arbres qu'il plante ne poussent pas et que dans le milliard d'arbres qui est censé être planté, sont comptabilisés sans aucune différenciation les arbres replantés qui sont morts et les arbres replantés qui ont pris. Donc tu vois déjà l'absurdité là encore de la situation. Sans compter que pour qu'un arbre puisse pousser, il lui faut de l'ombre. Il lui faut l'ombre de ses congénères. C'était le travail des forestiers. En fait, un forestier, ça fait quoi? Ça va venir abattre les arbres trop grands, trop volumineux, trop vieux et trop abîmés qui empêchent les jeunes pousses de pousser. Normalement, quand un forestier fait bien son travail, en général, quand il abat un arbre, c'est au bénéfice de plusieurs autres arbres. En gros, c'est un équilibre qui consiste à dire « j'abats cet arbre, je vais avoir en contrepartie 3 ou 4 petits arbres qui vont pousser et en plus, je vais avoir X arbres autour qui vont bénéficier d'un peu plus de lumière et qui vont réussir à s'épanouir que plus. Et en s'épanouissant, ils épanouiront les bébés arbres qui sont en train de pousser. » Donc, tu vois, c'est tout un art, un petit peu comme ce que moi, j'essaye de t'enseigner avec la gestion de tes finances. Et aujourd'hui, ce qui est hallucinant, c'est que tout ce que je suis en train de te raconter là, c'est-à-dire le ratiboisage de forêts, le replantage d'arbres sur des plaines arides qui ne poussent pas et qui meurent et qui sont comptabilisés comme des arbres plantés, tout ça, ben, c'est financé avec nos impôts. Et en fait, ça me saoule tellement que je voulais t'en parler. Du coup, je n'ai pas pris les passages où ça explique tout ça parce que, en fait, c'est plus scandaleux. C'est plus un scandale qu'autre chose. Et mon but avec l'émission que je voulais faire ici, ce n'était pas de te scandaliser, mais plutôt d'essayer de donner des idées à ceux qui écoutent et de me dire, ben, autant profiter de proposer une émission qui ne soit pas énervante, mais qui montre qu'il y a des gens qui trouvent des solutions. Et d'abord, ben, si tu es peut-être en reconversion professionnelle ou que tu ne sais pas quoi faire, eh bien, je te donne une idée, il y a tout un business à faire. Il est prêt, il est là. Il te suffit juste de t'intéresser à tout ça. Et pour moi, en tout cas, moi, je vois plein d'opportunités entrepreneuriales dans ce métier et qui, en plus, peuvent être rentables puisqu'il y a une vraie problématique. Il y a des gens qui envoient des bois en Chine alors qu'ils aimeraient les envoyer en France. Et il y a des gens qui achètent du bois en Chine alors qu'ils aimeraient l'acheter en France. Donc, je veux dire, tu n'as juste qu'à ouvrir une société en France et tu auras déjà des clients. Je veux dire, ce n'est pas compliqué, quoi, tu vois. Je ne peux pas faire plus pour toi. Et ensuite, comme je te l'ai dit, le but, ce n'est pas de te mettre en colère et de t'énerver encore par rapport à l'État français. Le meilleur moyen de régler le problème, ben, c'est de régler le problème. Ce n'est pas de le critiquer, de le pointer du doigt ou tu vois, de se mettre en colère pour rien. Donc, c'est une émission à but éducatif et aussi collaboratif dans le sens où je dis, ben voilà, il y a une problématique autour des arbres en France. Si tu as une autre idée ou le début d'une idée, creuse. Parce qu'à mon avis, c'est un domaine bien, où tu peux en tout cas te lancer et espérer faire quelque chose. Je te laisse liker, partager et me laisser un commentaire là où tu écoutes cette émission. Va sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet formation, il y a des formations, on travaille ensemble. Dans l'onglet livres, tu cliques et tu reçois les livres dans ta boîte aux lettres. Et dans l'onglet coaching, réserve une heure, une demi-heure ou quatre heures de coaching avec moi. Tu m'envoies les informations sur ta situation et on travaille sur tes projets pour que tu aies de gros résultats. Je te remercie, je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut !